Bon, alors attention, on est prêt. Moteur, ramène la 24 deuxième.
Ça s'appelle le miroir de l'âme.
Bon, alors j'ai changé le titre, hein, parce que le miroir de l'âme, c'était pas possible.
Oula.
Clap Cinéma, une émission proposée par Sylviane sur Radio Alliance Plus.
Oui, on a envie de voir, c'est sûr.
Bonjour, bonjour à tous. Nous retournons au Festival du film espagnol qui a eu lieu à Nîmes les 17, 18, 19 et 20 octobre au CGR. Et en parallèle, il y avait les rencontres artistiques de Nîmes. Et la marraine était Violette Baratier. Et j'ai eu l'occasion donc de faire plusieurs interviews des invités. Donc vous allez successivement entendre Gérard Hernandez, acteur, Laurent Pérez Delmar, et Stéphane Zidi, compositeur de films, et Christophe Baratier, réalisateur de films, qui était venu pour une avant-première de son dernier film, Comme par magie, pour soutenir en fait sa fille. Émission de cinéma, donc chacun a choisi une bande-annonce, et vous écouterez donc, après chaque interview, Josep, que Gérard Hernandez a doublé, La Tortue Rouge, et Il était une fois l'Amérique. Bonne séance à tous. Gérard Hernandez, bonjour.
Bonjour madame.
Et merci de m'accorder quelques minutes dans les jardins de l'Imperator. Vous êtes là pour le Festival Flamenco, vous êtes là pour...
Festival du cinéma espagnol.
Espagnol. Mmh. Oh là, bon.
Oui, là, oui.
Belle erreur.
Là, on parle plus espagnol que français.
Alors, vous êtes là, comment s'est passée la première soirée? Là, je sais que vous avez reçu un prix d'honneur.
Oui, ils sont gentils. De mon vivant, ils m'ont donné une récompense pour l'ensemble de mes méfaits.
Mais ouais. Alors, moi, j'ai regardé, vous avez tourné 55 films.
Ah bon?
Ouais,
ah
j'ai noté.
Je ne vais pas compter.
Bon, ben, on a compté pour vous.
Ouais.
32 séries. Vous avez 75 ans de carrière, donc vous ne devez pas être
jeune.
Très très jeune.
Dites-le.
Vous êtes né en 1933,
oui.
À Valladolid.
Oui.
Et votre nom complet, ce n'est pas Gérard Hernandez.
C'est Julio Gerardo Hernández Prieto del Castillo.
Oui, c'était un petit peu long.
Sur une affiche, ça ne marche pas.
Et Gérard, vous l'avez gardé parce que c'est un de vos prénoms. Donc,
oui,
voilà.
Parce que, oui, d'une part, c'était le prénom de ma mère, Gérarda. Donc j'ai gardé ça pour me fondre dans la foule.
Ouais. Votre ressenti quand vous avez eu ce prix, c'est de la gratitude ou un peu de nostalgie?
Non, c'est-à-dire qu'ils ont fait un truc bizarre, ils ont montré des tas de trucs que j'avais tournés dont je ne me souvenais même pas. Et je me suis dit, mon Dieu, c'est ça une carrière, c'est bizarre. Ça m'a fait un petit coup quand même. J'ai accusé le coup.
Oui. Et j'ai vu que vous avez fait... Enfin, j'ai vu, je vous ai beaucoup entendu. J'avoue que je ne reconnaissais pas toujours votre voix, mais vous avez fait beaucoup de doublage.
Oui.
Vous aimez beaucoup le doublage? C'est plus facile?
Vous savez, ce que j'ai aimé surtout dans ce métier, c'est les multi-emplois qu'on peut obtenir, c'est-à-dire faire un peu de tout, quoi. C'était une façon de... Il faut avoir du plaisir à faire ce métier, alors je fais un peu de tout. Je fais du cabaret, ce qu'on appelait à l'époque du cabaret, c'est ce qu'on appelle maintenant du one-man show. Sauf que nos one-man shows duraient 20 minutes au lieu de durer une heure et demie.
Mais c'était peut-être plus facile malgré tout, parce qu'on peut tenir une salle 20 minutes.
Oui, et puis on faisait plusieurs cabarets dans la soirée.
Il fallait gagner sa vie.
Oui. Et puis j'ai fait de la télé, j'ai fait du théâtre, j'ai fait un peu de tout ce qui se présentait.
Et toujours avec plaisir, même s'il y avait une raison un peu alimentaire?
Non. Vraiment, avant tout, avec plaisir.
Avec plaisir.
Bon, l'alimentaire, évidemment, mais c'était pas le but.
Le doublage. Alors, moi, j'ai beaucoup apprécié le film Aurel, sur la guerre d'Espagne,
ce cinéma d'animation
par Aurel, avec tout ce témoignage. Est-ce que, entre un personnage de dessin animé et un film comme Joseph, au niveau du doublage, qu'est-ce qui est différent? Parce que bon, vous êtes espagnol, d'origine espagnole, donc Josep Aguirre.
J'ai mis beaucoup de, j'espère, beaucoup d'émotions dans le personnage que faisait le grand-père, parce que ça me touchait. C'est un film qui m'a touché beaucoup plus que les Schtroumpfs ou autre chose. Les Schtroumpfs, c'est une rigolade permanente. Là, il y avait un côté tellement vrai, tellement, il fallait pas quitter le personnage, quoi. Il fallait être le personnage et pas essayer de faire mieux ou moins bien.
Alors, une longue carrière, mais aussi, est-ce que dès votre adolescence ou même avant, vous étiez cinéphile ou c'est les hasards de la vie ?
Non, j'aimais beaucoup le cinéma, mais c'est les hasards de la vie qui ont fait que je suis maintenant un professionnel de la profession, comme disait Piala.
Alors, je vous ai
non,
demandé...
comme disait Godard.
Godard. Alors, je vous demandais les films qui vous avaient marqué. Et vous n'avez pas hésité, peut-être personnellement, Citizen Kane.
Ah ouais, pour moi, c'est le summum.
Quoi, la façon de filmer, le...
Tout. L'interprétation, cette façon de filmer qui était, à mon avis, c'était... presque aussi moderne que la Nouvelle Vague. Oui. Je dis, il a fait des plans extraordinaires. Oui. Pour moi, c'est sublime. Et alors, d'autant plus qu'il n'avait jamais fait de film, ce jeune homme.
Eh oui, il était tout jeune.
C'était
hein,
son
quand il
premier
a fait ça.
Film.
Après, je vous ai demandé le film que vous aimiez, et vous m'avez dit Coup de tête de Jean-Jacques Annaud.
Oui, j'ai trouvé que c'est d'abord parce que Patrick Devers était fantastique.
Vous en avez vu des acteurs et des actrices.
Oui. Pour moi, c'était le plus grand de sa génération, vraiment, de loin.
J'ai eu longtemps le portrait par Rick DeWeer quand il jouait avec le fils, comment ça s'appelait, le mauvais fils.
Le mauvais fils avec... C'était le mari de Daniel Delorme.
Voilà. Et cette gravure était absolument magistrale.
Oui, c'était un grand, grand comédien.
Ouais, avec une intensité, une intériorité.
Oui. Et là où il est exceptionnel, c'est dans Série Noire.
Oui, Série
Noire. Il est exceptionnel. Oui.
Et vous, Faute de modestie, Trêve de modestie, dans lequel film où vous avez tourné, vous vous trouvez le meilleur ?
Ah, je ne me trouve pas du tout. Moi.
vous vous cherchez encore ?
Je ne me supporte pas. Non, je ne me supporte pas parce que je me dis qu'il y a toujours mieux à faire. Mmh. C'est malheureusement trop tard.
Vous vous regardez dans les films ?
Non.
Bon, jamais, non. Jamais. C'est pour ça que le doublage vous plaît bien ? On ne vous voit pas ?
Non, c'est peut-être ça. On est caché derrière un personnage en carton ou en viande. Mais c'est un côté lâche, quoi. On est planqué.
Non, c'est un côté discret.
On risque pas grand-chose. On peut dire le doublage est nul, c'est possible.
Alors nous parlons cinéma avec vous, Coup de torchon. Là aussi, Philippe Noiret.
Ouais, Philippe Noiret. Marielle, qui était un ami. Pour moi, c'est un grand, 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 qui n'a pas eu la carrière. S'il était né aux États-Unis ou en Angleterre, c'était un énorme vedette.
Jean-Pierre Marielle, c'est surtout sa voix. Parce que jeune, je ne trouvais
sa voix,
pas
y a,
si beau. Je
y
trouvais...
y a son volume, il avait tout, ce garçon. Mmh. On pouvait le voir dans des navets, il était formidable quand même. C'est ça qui est... Ouais. Ça qui est formidable.
C'est... Alors c'est vrai qu'à votre âge, vous en avez vu des
oula,
amis disparaître.
Oui. Oh, bah oui, maintenant quand je veux parler à des copains, il faut que j'aille au cimetière.
Et quel regard vous portez justement sur ce passé en vous disant il est bien rempli, il est...
Écoutez, mais il ne faut pas le répéter, j'ai l'impression que je débute. j'ai toujours eu l'impression de débuter. Dès que je fais un truc, je débute.
Oui. Alors qu'est-ce que vous allez faire de nouveau là bientôt ?
Ben, vous savez, ce qui est curieux, c'est que je ne vois pas le passé, moi.
Mmh. Ben, c'est bien.
Je ne vois pas l'avenir non plus.
Vous êtes tourné vers le futur.
Je veux dire que je ne vois pas l'avenir non plus.
Vous vivez le présent.
Voilà.
Et là, à l'Imperator, dans cet après-midi, conférence de presse.
Tout ça, ce sont des récompenses, comme ça.
Que vous dégustez.
Ben voilà. Oui, moi, je trouve ça formidable.
Ben merci à vous, Gérard Hernandez.
Mais c'est moi qui vous remercie d'avoir perdu votre temps avec un énorme comédien.
Oh, c'est fou, j'ai énormément perdu de temps. D'ailleurs, je vais demander qu'on me prenne en photo avec vous.
C'est vrai, et ben, on va faire ça.
Merci beaucoup.
Je vous en prie.
Et après ?
Oh, après.
todas las madres del mundo escondan su vientre tiemblo. Todas las madres del mundo escondan su vientre tiemblo.
Yo volvería para escupir en la tumba de Franco.
Laurent Pérez Delmar, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes aux rencontres artistiques de Nîmes, au Festival du film espagnol. Et moi, je vous compositeur de musique de film, et moi, je vous connais surtout par Torture Rouge, La Torture Rouge. C'est déjà il y a quelques années. Hein,
2016.
2016. Oh, mais ça passe vite, parce que j'ai un très, très beau souvenir de ce film. Vous êtes compositeur depuis très longtemps, ça a toujours été votre métier ?
Non, au départ, j'ai été médecin, jusqu'en 2011-2012. Je continue de faire de temps en temps des remplacements, enfin, c'est de plus en plus rare.
Donc, généraliste ou une spécialité ?
Généraliste avec de l'urgence et de la médecine manuelle ostéopathie.
Et vous étiez déjà mélomane, vous étiez déjà...
Oui, j'ai fait le conservatoire de piano classique quand j'étais petit. J'ai commencé à écrire de la musique pendant mes études de médecine, un peu avant même.
Et ça vous a rattrapé ?
Oui. Enfin, après, ce sont les rencontres, ce sont les...
L'âge peut-être
David.
Aussi, peut-être que se
oui.
dire c'est trop dur, c'est trop difficile.
Non, c'était pas trop dur parce que je faisais des remplacements à mon rythme, donc il y avait pas de ou des gardes à mon rythme, donc il y avait pas de ça. Mais non, mais après c'est la passion,
aussi,
c'est
la passion
de la musique. J'avais très très envie de faire ça et j'ai eu l'opportunité de pouvoir réaliser mon rêve. Donc,
grâce à des personnes.
À des rencontres. Ouais.
Donc La Torture Rouge, c'était pas le premier.
Non, mon premier long métrage, c'était un film à sketch d'animation qui s'appelait Peur du Noir, c'était en 2007. Et ensuite, il y a eu Zarafa en 2012, qui a fait un gros succès d'entrée et qui m'a permis de prolonger ma carrière jusqu'à aujourd'hui.
Donc, vous n'êtes pas spécialisé du tout dans les films d'animation ?
Ça
a été un hasard, en fait
qui... Non, j'aime beaucoup ça. Et puis, ça coïncidait bien avec le fait d'avoir des enfants. Je pouvais partager ça avec eux.
Mm-hmm.
Donc, c'était super, super important. Mais je fais aussi de la fiction.
Oui. On en reparlera. Mais quelle est la spécificité du film d'animation ? Il faut que la musique soit plus présente ? Il faut au contraire qu'elle s'oublie plus ?
Non, il n'y a pas de spécificité, si ce n'est que souvent, comme les mondes d'animation sont des mondes imaginaires, il y a beaucoup moins de limites à l'imagination.
Ouais.
Et donc on peut mettre beaucoup d'emphase, on peut faire des orchestrations beaucoup plus importantes. Que dans les prises de vue réelles, surtout dans les films contemporains où parfois on est quand même obligé d'être très underscore, on va dire, pour respecter la situation, et puis parce que les décors, l'action ne s'y prête pas.
Alors vous aviez quel instrument ? Quel est votre instrument ?
J'ai fait le conservatoire du piano classique, et puis après, mon père est guitariste, donc j'ai toujours fait de la guitare aussi.
Mmh. Oui, donc, c'est vrai qu'avec votre nom, je vous ai demandé vos origines.
Oui.
Et votre mère est corse ?
Ma mère est corse, mon père est pianeur d'origine espagnole, et mon père est guitariste, ma mère chante très bien, donc je suis toujours baigné dans la musique.
Donc le festival du film espagnol, pour vous, vous êtes dans votre sphère.
J'ai passé la moitié de mes vacances à Palma de Mallorca chez mes grands-parents, donc oui, je me sens un peu comme chez moi.
Et alors, vous venez d'arriver là, je crois. Vous n'avez
je suis arrivé
pas
ce matin.
Vous arrivez. Donc, il y a deux jours encore de festival.
Ouais.
Vous en attendez quoi ?
Alors, bon, malheureusement, je pars demain matin parce que j'ai une séance d'enregistrement demain soir. mais déjà, être là presque 24 heures, c'est super. Je trouve que l'ambiance est géniale. Et puis, je suis très proche de Violette Baratier, de Christophe aussi.
Oui.
Donc, c'est
vous
un peu comme...
Vous êtes dans votre élément.
Oui, on est un peu en famille, c'est génial.
Un petit peu... Alors, je vous ai demandé donc de mettre une bande-annonce, on mettra La Torture Rouge, et puis vous m'avez parlé aussi, puisque vous avez fait la musique de très nombreux films.
Oui, 25
vous avez compté
longs-métrages.
25
longs-métrages. À peu près,
ouais.
Non, j'ai pas compté.
Et là, le dernier, vous allez m'envoyer la musique, puisque j'ai pas encore...
Oui, le dernier qui soit sorti, c'est Antigone 2 de Benjamin Rocher, qui est sorti sur Disney+. Et la BO devrait sortir, en fait, c'est dans les circuits... Enfin, on va sortir deux titres, dont le thème principal du film.
Comment vous travaillez sur quel genre d'instrument ou comment vous
alors,
faites ?
Tout est possible, ça dépend vraiment des films. Je peux partir de papier-crayon si c'est pour de l'orchestre, je peux partir de la guitare si c'est plutôt pop, du piano. Non, ça dépend vraiment de l'inspiration, c'est pas moi qui décide.
Et on vous envoie
le scénario, on vous envoie des scènes déjà tournées,
ça dépend des projets. Non, non, au départ, j'arrivais vraiment à la toute fin des films parce que je remplaçais des compositeurs qui n'avaient pas fait l'affaire.
D'accord.
Donc, j'étais un peu la solution de recours. Et de plus en plus, et ça me fait d'ailleurs très plaisir, j'arrive de plus en plus tôt, oui, au stade du scénario. En ce moment, je suis plutôt au stade du scénario, ce qui donne un confort d'écriture qui est... Ouais.
Est-ce que vous vous imprégnez des idées ? Parce que vous n'avez pas peur de vous répéter vous-même dans les différents films, non ?
Non, parce que j'essaie vraiment de concevoir un univers très très particulier pour chaque film. Donc j'essaie toujours de partir d'une idée de départ ou d'une instrumentation, d'un arrangement très différent pour chaque film. Donc pour l'instant, je pense ne jamais m'être répété.
Je suis désolée, mais... ma question était peut-être malvenue.
Non, pas du tout, parce que c'est le problème de beaucoup de compositeurs, y compris des plus grands. Mais bon, j'ai pas fait assez de films pour me répéter, je crois. On en parlera quand j'en aurai fait 150.
D'accord, je donne rendez-vous dans combien de temps ?
Je sais pas.
On laisse le suspect.
Exactement.
Et Antigone 2, ça raconte quoi ?
Puisque vous Antigone 2, c'est... il y a eu Antigone 1 en 2015, qui était l'histoire d'un jeune flic de la BAC, un peu foufou, qui amenait des battes de baseball sur les interventions, etc.
Ouais.
Et là, Antigone 2, c'est 15 ans plus tard, donc il est devenu père. Il a une ado de 14, 15, 16 ans, je ne sais plus exactement. Et lui, en fait, a quitté, il a été viré, enfin mis au placard, donc il est devenu pilote, moniteur d'auto-école. Et donc, il n'a plus aucun respect de la part de sa fille. Et il va s'investir dans une affaire et il va mener l'enquête avec sa fille. Et il va regagner le respect et l'estime de sa fille.
Bien. C'est une très belle histoire, un beau sujet. Parce que je pense que ça touche chacun. Vous parliez de vos enfants.
Je me suis senti très, très concerné par certains aspects de la personnalité de sa fille.
Tout parent, surtout à l'adolescence, est concerné. Bien, merci beaucoup. Je vais vous laisser aller donc au CGR pour... les séances du film espagnol.
Mais merci à vous.
C'était... Bon séjour à nous.
Merci beaucoup, à bientôt.
Je suis dans la cour de l'Imperator lors du festival du film espagnol et j'ai la chance de rencontrer Stéphane Zidi. Bonjour.
Bonjour.
Donc vous êtes compositeur de musique de film, uniquement de musique de film.
Principalement.
Et vous êtes là comme spectateur lambda, non pas tout à fait quand
non,
on est compositeur.
Non, mais j'ai la chance d'être invité par Violette Baratier, qui est une amie. On était dans un festival la semaine dernière. Elle me dit, ce serait génial que tu viennes.
Voilà. Voilà,
donc j'ai accepté l'invitation avec grand plaisir. Évidemment.
Pour faire les critiques, non ?
Jamais. Je ne fais jamais de critiques.
Jamais de critiques.
Non.
Mais... vous en attendez quoi de ce festival ? Vous en attendez, parce que vous m'avez dit que vous avez vécu 3 ans en Espagne.
Oui, c'est ça.
Donc vous êtes imprégné de l'Espagne.
C'est une culture pour moi exceptionnelle. Et le cinéma espagnol aujourd'hui a totalement le vent en poupe. Ça fait quelques années. Mais depuis l'avènement de Netflix et de différentes séries qu'ils ont eu l'occasion de créer qui sont absolument sublimes.
Casa del Papel, je
notamment,
suppose.
Notamment. Voilà, c'est une culture cinématographique exceptionnelle, très riche. Et j'estime qu'elle mérite d'avoir le statut qu'elle devrait avoir. Voilà.
Quand vous avez vécu en Espagne, c'était pour votre travail ? C'était pour la composition de films ? C'était pour les vacances ?
Alors non, pas du tout. C'est en fait mon père qui est un chef d'entreprise, qui a beaucoup travaillé en Espagne. Et pendant 3 ans, il a eu l'occasion d'être entre Alicante et Madrid. Et voilà, je l'ai suivi.
Voilà. Quelle est, d'après vous, la particularité de ce film espagnol ? Parce que quand j'ai rencontré Évrard Zaouche du CGR, il me disait avant, le cinéma espagnol, c'était Almodovar. Hein, comme l'américain, c'était Woody Allen.
Il y en a tellement plus.
Donc j'aimerais justement que vous me parliez de ce tellement plus espagnol.
C'est l'avènement de tout un tas de réalisateurs, c'est l'avènement de tout un tas de compositeurs, en tout cas en ce qui me concerne. Mais c'est surtout ce cinéma qui est tellement particulier, qui est toujours ce côté un peu indépendant, un peu barré, mais en même temps hyper bien filmé. Je suis fan, je suis totalement fan.
Plus que les autres pays ?
Je vais vous faire un aveu.
Allez-y.
Peut-être plus que les films français.
Bon, c'est vrai que les films français sont parfois critiqués en disant c'est assez pépère.
Ça manque, ça manque de piment de temps en temps, évidemment. Encore une fois, je déteste généraliser, mais
bien sûr. Voilà. Mais c'est vrai que dans les films espagnols, ou les séries, les prises de vue sont absolument extraordinaires.
Oui, et puis les idées
oui.
Aller loin des fois, hein, parce que des fois, on va quand même pas dans le gore, mais en tout cas,
c'est
ils osent.
C'est plus violent, hein. Il y a une violence, je trouve.
Ils osent.
Oui,
ils osent.
C'est ce que vous allez dire. Ouais. Oui, mais pourtant, Almodovar osait. Enfin,
ah, bah lui, oui,
qu'il
bien
avait,
sûr.
Bah,
c'est là peut-être l'un des
mais il y a longtemps maintenant. La Movida, bon, ça remonte maintenant.
Exactement.
Donc, il faut être dans
La mouvance.
Dans le futur, dans la mouvance. Vous composez quoi comme musique de film? Est-ce que vous avez une spécialité?
Une spécialité, alors, j'ai eu la chance de faire toutes mes études aux États-Unis à la Berkeley. Et ma spécialité, je vais dire que c'est la direction d'orchestre. Je suis un passionné d'orchestre. J'ai eu la chance d'apprendre ça. Et évidemment, la composition de musique de film.
Et au point de départ, vous étiez sur quel instrument?
Piano. Je suis pianiste.
Piano. Donc, ce qui donne tout de même un large éventail, je trouve, le piano.
Le piano, c'est l'instrument roi.
Bah oui, bien sûr. C'est là-dessus qu'on compose.
Bah, disons
ou la guitare. Mais enfin, bon.
Oui, mais quand vous regardez, par exemple, une chose très marrante, c'est que Ennio Morricone est vraiment fait office de particularité parce qu'il était trompettiste.
Eh oui, donc tout est possible.
Bien sûr, en musique tout est possible, madame.
Et la direction d'orchestre, ça vous donne une ouverture absolument extraordinaire. Parce que vous avez combien d'oreilles?
Bah écoutez, jusqu'à présent, à ce que je sache, j'en ai que deux. Hein.
Mais ça doit donner une intensité de travail, d'écoute.
Ce qui est génial, c'est lorsque vous écrivez une musique de film et qu'on vous donne l'occasion d'avoir accès à un orchestre symphonique. Pour moi, c'est ce que j'appelle le gâteau sur la cerise.
Mmh, c'est pas à chaque fois.
Non, parce que malheureusement, les coûts,
les budgets.
Mmh. Mais dès que je le peux, moi, je préfère couper mon budget à moi et avoir un orchestre plutôt que de m'enrichir personnellement, enfin financièrement, mais pas intellectuellement.
Dans un orchestre, quel est ou quels sont les pupitres que vous préférez?
Bah, déjà le premier violon, parce que c'est quand même mon second en thème d'orchestre. Et puis évidemment, forcément, les cornes, parce que c'est quand même eux qui forment 75% d'un orchestre. En tout cas, classique occidental.
Alors, j'ai demandé à plusieurs de mes invités pour cette émission le film qui les avait marqués ou le film qu'ils avaient fait. Donc, je vous propose le film qui vous a marqué, peut-être par la musique, mais peut-être pas. Peut-être par, vous parliez d'Ennio Morricone tout à l'heure, donc en tant que directeur d'orchestre, c'est peut-être ça que vous allez me dire, un film où la bande-son est absolument extraordinaire.
Bah, j'ai un exemple.
Allez, j'écoute.
Il était une fois en Amérique, d'Ennio Morricone, et pour moi c'est...
Le must.
Ouais, vraiment. Vraiment.
Donc on va l'écouter particulièrement, je crois. Donc, et ce que vous aimez dans une composition de musique, de film, c'est un thème ou c'est tout?
Bah, disons que moi, c'est vraiment le thème.
Le thème, oui.
Parce qu'aujourd'hui, je me rends compte que plus ça va, plus on est plus sur des ambiances musicales, donc des nappes, des choses comme ça, et on oublie le thème. Et je trouve que c'est un grand dommage, parce que le thème, et c'est finalement le second personnage principal
bien
du
sûr.
Film.
Il évoque, il mémorise. C'est comme dans un livre où il y a toujours le même personnage.
C'est ça, le leitmotiv.
Le leitmotiv.
Exactement.
Donc, ben merci, on va écouter une fois l'Amérique. On écoute particulièrement quoi? Quel instrument?
Oh ben, c'est pas un instrument, c'est le thème de l'amitié.
Le thème de l'amitié.
Ouais.
Merci à vous et bon festival.
Mais alors. Je vous remercie beaucoup, madame.
Enfant, ils n'avaient rien d'autre que leur amitié.
C'est qui? Bugsy. Oh,
soit tu bosses pour moi, soit tu bosses pour personne.
Adulte, ils voulaient la fortune et le pouvoir.
On est mieux que le destin. Il y en a qui vont avoir la grande vie, et d'autres qui vont l'avoir dans le cul.
Les voilà, les quatre cavaliers de l'apocalypse.
Leur pouvoir...
Espèce de salaud !
...les rend sans pitié.
Aucun problème, un jeu d'enfant.
Leur malhonnêteté les a rendus riches.
Si j'avais 1 million en poche, tu me la coulerais douce.
La coulera douce quand on en aura 20. 50.
Christophe Paratier, bonjour et merci. Vous êtes très occupé dans ce festival du film espagnol, dont la marraine est votre fille, Violette Paratier, que j'ai eue également au micro avec Évrard Zaouche. Donc là, on ne va pas parler de l'Espagne, on va parler de votre fille, et puis on va parler aussi de l'opportunité de lancer en avant-première, comme par magie, qui est programmée le 15 novembre, mais que les Nîmois vont voir en avant-première le samedi 21 octobre. Donc vous faites d'une pierre deux coups.
Oui, bien sûr. En fait, non, mais vous savez que ma fille, elle a pris son autonomie, sauf une chose, c'est que je l'ai peut-être... J'ai eu des manquements comme tous les papas, mais en tout cas, je l'ai bien élevée ici, on en anime. Donc elle se sent parfaitement bien ici. Je suis parfaitement fier qu'elle ait fondé, qu'elle s'est occupée de ce festival sans que j'intervienne.
Voilà.
J'ai des petits conseils, mais pour la première fois, c'est ça. Moi, j'ai déjà monté, j'ai un festival de films à La Havane, j'ai monté un film de La Baule. Il y a peut-être un petit peu d'atavisme,
voilà.
Mais elle l'a monté, et surtout une première action, je connais par cœur. On est angoissé, on a des problèmes, on n'est pas sûr de nous. Mais là, je la vois très sûre d'elle, simplement, évidemment.
Puis elle a des invités de marque.
Bien sûr, mais je pense que comme j'avais un film qui allait sortir,
ouais,
et qu'en plus il va sortir au CGR,
allez, hop.
Si elle me fait venir, je vais aller quand même, c'est hors compétition, ça n'a rien, mais c'est un petit bonus, quoi, le fait. Et puis moi, ça me fait plaisir de l'accompagner parce que...
Vous êtes fier,
mais ça lui donne aussi une petite caution.
Bien sûr.
Si j'avais refusé de lui montrer mon film du fait qu'il n'est pas espagnol, puis après tout, moi, en aimant la guitare comme je l'aime, l'Espagne comme je l'aime et la corrida...
Ouais.
Il y a quand même un petit point commun.
Et puis le cinéma, tout de même.
Le cinéma espagnol, bien sûr.
Mais tout le cinéma, puisque...
Non, mais bien sûr, mais j'ai vraiment une relation privilégiée avec l'Espagne, très sentimentale.
Quand on pense Christophe Baratier, on pense les choristes. C'est tout de même la réaction première des personnes.
Bah, bien sûr.
Oui, ça ne vous gêne pas.
Non, bah non. Au
c'est
contraire.
Ouais. Bah,
vous savez, on me dit, oui, mais j'ai fait ces films tout le monde par des choristes. Vous pensez aux gens qui ont fait 8 films et dont on parle d'aucun de leurs films ?
Oui, oui. Mmh.
Et puis c'est un film qui est une carte... C'est un petit miracle, hein, parce que là même, à quel point j'ai remonté une comédie musicale, j'ai changé pas mal de choses, j'ai fait de nouvelles chansons, ça fait un carton Folies Bergères, et cette comédie musicale fait le tour du monde en ce moment.
Mmh.
Qui pourrait se plaindre de ça ?
Ben, bien sûr. Donc les choristes, c'est vrai que ça a marqué. Vous parliez de la musique. C'était une volonté pour vous de voir le rôle de la musique à notre époque, à ce moment où il y a
les choristes, ben c'est surtout que moi, j'avais un professeur qui est un musicien un peu raté, donc il ne fallait pas que ce soit de la très grande musique.
Il
ne fallait pas que ce soit non plus de la variété. C'est un peu entre les deux. Parce que moi, je pensais qu'on a fait des musiques jolies qui lui correspondent, ces musiques simples. Elles sont d'ailleurs intemporelles parce qu'elles sont un peu classiques, mais elles appartiennent à aucun genre.
Mais moi, c'était plutôt l'idée, la musique adoucit les mœurs.
Non, enfin, ça, non.
Mais sauve les personnes, peut-être. Non.
Oui, mais dans ce cas-là, on peut être sauvé par plein de choses, par le sport, par tout ça. Mmh. Moi, c'est parce que lui, il est professeur de musique, il a que cette arme-là.
D'accord.
Et par conséquent, il ne veut pas non plus faire de ses jeunes amis, il ne veut pas en faire des grands chanteurs internationaux. Mmh. Il veut juste qu'ils pensent un peu à autre chose. Alors, si elle adoucit les mœurs, c'est pas parce que ça calme, c'est parce que l'occupation qu'elle demande fait que pendant ce temps-là... Hein.
Oui, mais ça crée peut-être aussi des vocations, malgré tout.
Ça crée des vocations, mais il y a des cas où la musique n'a jamais adouci les mœurs, puis il y a des cas d'achat. Ouais.
Alors, vous êtes là pour Comme par magie, donc le 15 novembre, et vous retrouvez votre acteur, je ne sais pas s'il est fétiche, mais si vous l'aimez beaucoup, Gérard Jugnot.
Fétiche, oui, bah, écoutez, c'est marrant qu'on me dise ça, parce que, Pagnol a tourné 14 films avec Rému,
ouais.
Costa Gavras 6 avec Yves Montand,
ouais.
Belmondo 12 avec Doré, à chaque fois on me dit que...
C'est pas désagréable.
Mais c'est parce que je crois qu'on a besoin toujours, moi... D'ailleurs, Gérard a une grande qualité, c'est qu'il peut jouer beaucoup de types de personnages parce qu'il est Monsieur Tout-le-Monde. C'est agréable d'avoir Monsieur Tout-le-Monde.
Ouais.
Monsieur Tout-le-Monde, c'est pas donné à tout le monde. Hein.
Peut-être plus quand il était jeune. Je trouve qu'en vieillissant...
Mais Bourville, pour moi, c'est dans cette catégorie. Et puis, c'est des gens qui peuvent être aussi convaincants dans le tragique que dans le comique.
Bien sûr.
Donc, Gérard, il a ce côté passe-partout qui fait qu'il est un caméléon qui peut s'adapter à toutes les situations. Et c'est vrai qu'il y a un moment, vous savez, des tournages sont très difficiles. C'est des escalades et tout. Donc, quand on a un allié...
Bien sûr, ça facilite tout de même, et on a moins besoin de parler.
Oui, puis en plus, c'est ça, c'est exactement ça. J'ai pas en plus le cas de quelqu'un qui me poserait problème.
C'est pas la peine de les multiplier. Donc vous assistez à beaucoup de séances, à de nombreuses séances, vous rencontrez des personnes que vous connaissez depuis longtemps, et donc c'est un très beau moment que vous passez à Nîmes, en plein automne.
Là c'est le, je vais le découvrir, mais dès que je suis arrivé, là j'ai reconnu 12 personnes dans la rue, déjà j'ai un peu l'impression d'être chez moi, sincèrement.
Bon,
et j'ai toujours un bonheur à revenir ici. C'est une ville que j'ai vraiment fréquentée, il n'y a qu'une chose qui me fait drôle, c'est que quand j'y viens en général,
Il pleut.
Non, pas du tout. Mais pour partir l'histoire, arriver aux arènes avec la foule, on met. En fait, j'ai tout petit. Quand il n'y a personne, je ne la reconnais pas.
Ah, voilà. Mais c'est vrai que là, il y a eu un gros orage cette nuit, donc il y a moins de monde.
Non, mais c'est pas du tout la même ville.
Bien voilà. sûr. Voilà. Mais moi, j'aime bien la ville aussi en hiver.
Mais elle a son charme.
Merci voilà. à vous.
Merci,
Christophe
merci beaucoup.
Merci.
Merci à vous.
Vous êtes sur Radio Alliance Plus.